Bien, bonjour et bienvenue à tous. Alors aujourd'hui, avant de commencer, j'ai une annonce importante à vous faire. Depuis la mi-janvier, comme certains d'entre vous l'ont peut-être constaté, outre l'enquête menée parmi les internautes qui consultent le site web du Collège de France, le Collège met à votre disposition, à l'entrée de l'amphithéâtre, un questionnaire que nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir renseigner, en sachant qu'il reste totalement anonyme. Donc, et en sachant aussi que nous ne vous demandons pas de faire une notation des professeurs. Vous pourrez ensuite déposer ce questionnaire à la sortie dans les urnes prévues à cet effet. Vous nous aiderez ainsi à mieux faire connaissance avec vous et à mieux remplir ce que je comprends pour ma part comme étant notre mission de service public. Je parle maintenant en mon nom propre, en espérant n'être pas seule à penser comme je pense. Contrairement à une idée encore un peu trop répandue peut-être, les professeurs du Collège de France n'ont pas vocation à pontifier du haut d'une tour d'ivoire. Ils sont chargés de s'adresser à leurs concitoyens pour leur fournir, chacun dans son domaine, l'information la plus honnête possible et, dans la mesure de leurs moyens, un peu de matière à réflexion. C'est du moins ainsi que je comprends ma mission dans cette institution où je suis encore toute nouvelle. Alors, le questionnaire que nous vous proposons est donc un premier moyen de dialoguer avec vous et, pour moi plus particulièrement, de mieux comprendre ce que je suis censée faire ici. Donc, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, à vos stylos et merci d'avance. Alors, je reprends donc le fil de mon propos. Au cours des dernières semaines, nous avons vu comment la stratégie de conversion des missionnaires jésuites en Chine les amène à présenter aux élites européennes un Confucius laïcisé, alors j'emploie ce mot naturellement entre au moins 8 paires de guillemets, et à présenter une Chine idéalisée qui se retrouve du coup, à la fois Confucius et la Chine, érigée en modèle par certains membres de ces élites européennes ou en repoussoir par certains autres, selon qu'ils prennent la médaille en plein ou en creux. Donc mon propos n'est pas de donner un tableau complet de l'Europe chinoise, pour reprendre la formule des Tiambles, mais de poser des balises qui nous serviront de repères lorsque nous aborderons certains thèmes qui se dégagent de la lecture des entretiens de Confucius eux-mêmes. Nous verrons ainsi dans quelle mesure notre lecture des entretiens est marquée inconsciemment ou non par la manière dont ce texte et son auteur présumé, donc Confucius, ont été perçus pour la première fois en Europe, c'est-à-dire dans ce que j'ai appelé la première mondialisation de Confucius. Donc là, nous sommes en train justement de prendre conscience des lunettes que nous portons donc quand nous lisons les entretiens. À ce propos, pour illustrer l'intégration de Confucius dans le panthéon universel dont je parlais la dernière fois, je ne résiste pas à l'envie de vous montrer un chef-d'œuvre de la peinture française nationale, mais c'est une peinture très rococo, comme vous allez le voir. Alors, donc, il s'agit donc de cette peinture de plafond qui figurait à l'origine dans le château du domaine de Montreuil à Versailles, que Louis XVI avait acquis pour la résidence de sa sœur, Madame Élisabeth. Alors, je vous montre cette peinture de plafond qui est, comme vous le percevrez sans doute, un peu dans la manière du fameux peintre vénitien Giambattista Tiepolo, qui a donc vécu donc, au XVIIIe siècle. Et comme vous le savez, Tiepolo a peint beaucoup de plafonds dans les palais de l'Europe entière. Alors, je vous montre un petit peu à titre de comparaison, par exemple, ce plafond du Palais Royal de Madrid, qui représente Vénus et Vulcain, ou alors celui-ci, qui représente l'allégorie des planètes et des continents. Donc là, vous voyez, c'est la peinture de plafond, donc, est conçu pour être regardé d'en bas, bien sûr, donc le regard s'élève vers une sorte de ciel fictif. Et donc nous revenons à cette peinture qui est due à un certain Jean-Baptiste Mauzes, ça s'écrit M-A-U-Z-A-I-2-S-E. Alors je dois dire que c'est un peintre quelque peu oublié, qui a vécu de 1784 à 1844. Alors, cette toile de Jean-Baptiste Mauzes a pour titre « La sagesse divine », alors que vous voyez ici, passablement dénudée, « donnant des lois aux rois et aux législateurs entourés de l'équité et de la prudence ». Que vous voyez donc de chaque côté. Alors, cette œuvre a été commandée en 1826, achevée un an plus tard, en 1827, et elle représente donc au premier plan Moïse, vous voyez son bâton posé à terre, le fameux bâton avec lequel il a frappé le non moins fameux rocher, recevant donc les tables de la loi. Alors, devant toute cette foule, où vous reconnaîtrez peut-être Numa, dans le désordre, Numa, Sémiramis, Romulus, Mahomet, Charlemagne, Alfred le Grand, et en bas, ici, donc, où est ma flèche ? J'ai un peu de mal à retrouver la flèche, ici, oui, en bas, ici. Vous reconnaissez notre immarcessible Confucius. Et donc, à l'arrière-plan, on aperçoit les rois de France depuis Clovis jusqu'à, si je ne me trompe, Louis XIV. Donc, nous retrouvons notre Confucius dans ce panthéon universel. En compagnie que nous n'avons que du beau monde en quelque sorte. Hein. Bien. Donc ça c'est donc petit clin d'œil à ce que je disais la dernière fois. Alors comme j'y ai insisté à plusieurs reprises, ce ne sont évidemment pas les jésuites qui ont fait découvrir l'existence de la Chine au public européen. Mais ce sont probablement eux qui ont fait découvrir Confucius et ce qu'il désigne comme sa philosophie, donc au public européen. Et ce qui est intéressant, évidemment, à souligner, c'est que les jésuites sont intervenus à un moment crucial de l'histoire de l'Europe, qui était alors en train d'entrer dans sa modernité. Et donc, les jésuites ont fait intervenir leur Chine dans les débats intellectuels, qu'ils soient théologiques, scientifiques ou philosophiques, suscités par cette entrée de l'Europe dans la modernité. Alors, à quelques exceptions près, ce sont donc des représentations de la Chine, et non la Chine elle-même, la réalité de la Chine elle-même, qui suscite l'intérêt des élites européennes. Et on pourrait dire que la Chine, prise comme une sorte d'entité essentialisée, n'est qu'un prétexte, un argument pour ou un argument contre, dans des débats déjà en cours. Or, ce qui est intéressant à noter aujourd'hui, c'est que cette utilisation de la Chine comme l'autre, qu'il soit construit comme modèle idéalisé ou comme repoussoir diabolisé, que cette utilisation de la Chine soit encore pratiquée trois siècles plus tard, aujourd'hui même, et connaissent encore un succès qui perdure, du moins auprès du public non averti, c'est-à-dire que ce n'est pas vous qui êtes concerné. Pour en revenir à nos jésuites, alors force est de constater que la réception de la médiation jésuite se retourne de fait contre la prétention du christianisme et plus particulièrement du catholicisme de la contre-réforme, de cette prétention donc à l'universalité, notamment telle qu'elle se manifeste dans les entreprises missionnaires, puisque elle met en question la prétention du christianisme à être la seule religion vraie et à avoir pour vocation de s'imposer au reste du monde, précisément à travers ces entreprises missionnaires. Alors, avec la découverte de la Chine, notamment telle qu'elle est présentée par les jésuites, un certain sens de la relativité s'introduit dans l'universalisme présupposé par le dogme chrétien, et cela sur plusieurs plans. Donc, il s'agira pour nous aujourd'hui de faire en quelque sorte la synthèse de ce que les philosophes des Lumières ont retenu et surtout exploité de ce qu'ils appelaient la Chine. Alors, ces plans différents concernent, et j'y reviendrai donc point par point, donc concernent d'abord la question de la chronologie, ensuite le plan religieux, et enfin le plan de la raison. Alors d'abord, sur le plan de la chronologie, on a vu l'importance accordée par le Confucius Sinarum Philosophus de 1687 ou l'importance accordée par Voltaire aux tables chronologiques synoptiques qui montrent que la civilisation chinoise remonterait bien avant le déluge, ou du moins c'est ce que laissent à penser les sources canoniques chinoises telles qu'elles sont présentées par les jésuites. Alors, l'une des spécificités de ces sources, qui n'a pas manqué de frapper les esprits européens, et là pour le coup à juste titre, c'est l'obsession chinoise de la notation du temps sous toutes ses formes. Donc l'obsession pour le calendrier, l'historiographie, hein, les annales, etc. Alors, deux des cinq, nous quittons donc notre panthéon et nous revenons donc à notre glossaire ici. Donc, deux des cinq classiques confucéens, les Wu Jing, portent exclusivement sur cet aspect donc concernant la notation du temps. Vous avez d'abord le livre des documents, le shooting, et les annales des printemps et automnes, le trincho. À travers donc ces deux livres canoniques, 2 sur 5, ça fait quand même déjà beaucoup, on pourrait dire que les Chinois sont de véritables maniaques du calendrier et des annales. Livre des documents donc relate des faits historiques concernant notamment les règnes des souverains de la haute antiquité. Ils notent leurs faits et gestes et également certains de leurs discours. Et quant aux annales des printemps et automnes, alors je signale en passant que printemps et automne sont deux saisons qui désignent par synecdoque l'année entière. Donc, autrement dit, le titre printemps et automne est censé désigner donc les annales. Donc, ces annales relatent les événements marquants des règnes de 12 souverains du pays de Lu, dans la province actuelle du Shandong, donc sur la côte est de la Chine, le pays de Lu dont était originaire Confucius, d'où évidemment donc le lien qui a été très tôt établi entre ces annales et Confucius. Alors, ce qui est tout à fait frappant dans ces annales, c'est que chaque fait est daté par l'année de règne, donc vous avez le nom du souverain en question avec son année de règne, la saison dans cette année, le mois dans la saison et le jour dans le mois. Autrement dit, là, on ne peut pas... c'est tout juste si vous n'avez pas l'heure. On ne peut pas être plus précis, maniaquement précis, donc, dans la notation du temps. Je pense que c'est intéressant de citer à ce propos l'essai sur les mœurs et l'esprit des nations, toujours de notre Voltaire national, essai qui date de 1756, où Voltaire écrit ceci: si quelques annales portent un caractère de certitude, ce sont celles des Chinois, qui ont joint, comme on l'a déjà dit ailleurs, l'histoire du ciel à celle de la terre. Seuls de tous les peuples, ils ont constamment marqué leurs époques par des éclipses, par les conjonctions des planètes. Et nos astronomes, qui ont examiné leurs calculs, ont été étonnés de les trouver presque tous véritables. Les autres nations inventèrent des fables allégoriques. Et les Chinois écrivirent leur histoire, la plume et l'astrolabe à la main, avec une simplicité dont on ne trouve point d'exemple dans le reste de l'Asie. Alors là, je me suis demandé en fait à quoi Voltaire faisait allusion. C'est peut-être à l'Inde, où on ne trouve pas une telle obsession pour la notation du temps. Alors, à chacun son exotisme. Pour moi, l'exotisme, il est indien. Je suis toujours frappée dans mes dialogues avec mes collègues indianistes à quel point, justement, il y a un contraste entre la Chine et l'Inde, du moins sur ce point donc, de la notation du temps. Autant les Chinois sont maniaques au jour près, autant les Indiens, quand on leur demande de dater certains ouvrages, vous donnent une fourchette de plusieurs siècles. Donc c'est évidemment là quelque chose de très exotique pour nous sinologues. Et donc, pour peu qu'on accepte, fin de la citation de Voltaire, et donc pour peu qu'on accepte la chronologie des Chinois, celle de la Bible perd sa valeur universelle. Loin de rendre compte de l'histoire de l'humanité, elle ne s'applique au fond qu'à une partie, et même une petite partie du monde. Donc le problème que pose la découverte des livres canoniques chinois, c'est d'abord que les faits anciens qu'il relate, des faits d'autant moins contestables, qui s'appuient sur des observations astronomiques vérifiables et de fait vérifiées par les pères jésuites, donc que ces faits contredisent la Genèse. Alors, je signale à ce propos, je profite toujours au passage pour vous rediriger sur les travaux de collègues bien plus compétents que moi. En ce qui concerne donc notamment les questions de calendrier et de savoir astronomique, je signale les travaux de mon collègue de l'École pratique des hautes études, Marc Kalinowski, donc de la cinquième section de l'EPHE, qui fait en ce moment même, le vendredi donc après-midi, de 14h à 16h, un séminaire justement sur ces questions donc d'astronomie et de calendrier. Alors, outre donc le plan chronologique, le sens de la relativité s'introduit également sur le plan religieux. Dans les pays européens, notamment, comme je le disais tout à l'heure, ceux qui sont marqués par le catholicisme de la contre-réforme, la Chine frappe par ce qui apparaît comme de la tolérance religieuse. Les récits des voyageurs et des missionnaires semblent converger sur ce point, puisque tout le monde a cru remarquer que toutes sortes de cultes cohabitent en Chine, et nous avons mentionné la dernière fois le contraste que les Européens soulignent à souhait entre, d'une part, la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV en 1685, et d'autre part, l'édit de tolérance de l'empereur Manchu, Kangxi, en 1692, qui lui accorde aux chrétiens le droit de pratiquer et même de prêcher leur religion dans tout l'Empire. Alors, l'absence de guerre de religion et cette fameuse tolérance religieuse à la Chine, comme on disait à l'époque, suscite évidemment l'intérêt et le questionnement d'un certain nombre de philosophes des Lumières. Pour Pierre Bell, alors là vous avez toute une brochette donc de ces philosophes, donc Pierre Bell que vous voyez ici, né en 1647, mort en 1706, fils de pasteur protestant et auteur du fameux dictionnaire historique et critique, cette tolérance religieuse s'explique tout simplement par le fait que les Chinois, selon lui, sont athées. Alors, il n'y a pas si longtemps, Étiamble affirmait que Confucius était agnostique, probablement à sa propre image, à l'image d'Étiamble lui-même. Alors, il faut dire que c'est la thèse qui est défendue par le père jésuite Niccolò Longobardo, ou Longobardi lui-même, Longobardo dont nous avons parlé précédemment, dans son traité sur quelques points de la religion des Chinois, publié donc à Paris en 1701. Alors, la conclusion que tire Bell de l'athéisme des Chinois, c'est que la morale n'a pas nécessairement besoin de la religion et que la religion ne sert parfois qu'à justifier l'intolérance. Là, je rappelle qu'il s'agit d'un protestant qui parle. Alors, nous avons ici donc le fameux argument de la vertu des païens. C'est-à-dire donc les païens au fond ont une morale qui justement n'a pas attendu la religion chrétienne, justement, pour être efficace. Donc c'est ce fameux argument qui est mis en avant dès 1641 par La Motte le Veillé dans son traité de la vertu des païens, où figure déjà une comparaison entre Socrate et Confucius, deux philosophes païens, hein, ou ce que les jésuites appelaient des philosophes ethniques, dont le mérite commun est d'avoir fait, je cite donc La Motte le Veillé, donc, est d'avoir fait descendre la philosophie du ciel sur la terre par l'autorité qu'ils donnent tous deux à la morale. Alors, à l'inverse, Fénelon, donc de son nom complet François de Salignac de La Motte Fénelon, donc Fénelon pour les intimes, donc dans le septième de ses Dialogues des morts, qui date des années 1690, donc dans le septième de ces dialogues, qui est aussi le plus long de tous les dialogues sur des morts, un dialogue qui est intitulé « Sur la prééminence tant vantée des Chinois », Fénelon, lui, se montre au contraire critique, puisqu'il oppose Socrate et Confucius pour contester la véracité des témoignages jésuites qu'il traite de fables et qu'il accuse, d'ailleurs peut-être pas tout à fait à tort, d'avoir mythifié la Chine. Et c'est une même volonté de mettre en cause ce qui est perçu comme de la complaisance de la part des jésuites à l'égard de la religion des Chinois. C'est cette volonté donc de remise en cause qui anime les entretiens d'un philosophe chrétien et d'un philosophe chinois sur l'existence et la nature de Dieu, de Nicolas Malebranche. Donc, entretien qui date de 1708, où là aussi on pourrait imaginer de nouveau un dialogue, alors là non plus entre un philosophe païen comme Socrate, mais donc un philosophe chrétien et face à lui un philosophe chinois qu'on imagine évidemment sous les traits de Confucius. Alors là aussi je ne peux pas m'empêcher de faire une référence vraiment pas très sérieuse, hein, mais encore une fois je ne me perçois pas comme une pontificatrice. Je fais référence à un petit sketch des humoristes anglais, les Monty Python, où vous avez donc un match de football entre donc les philosophes grecs, où vous avez évidemment Socrate, Platon, Aristote, etc., et en face les philosophes allemands. Alors vous avez Kant, Hegel, etc., tous ces gens-là donc en chaussures de footballeurs, un match arbitré par Confucius. C'est absolument désopilant, donc je vous le recommande. Alors, je pense que ce match de football a été largement inspiré, je crois, de ces dialogues qui, eux, sont très très sérieux. Alors, pour Voltaire, afin de revenir à lui, Voltaire dont nous avons cité le dictionnaire philosophique la semaine dernière, la religion confucéenne, car c'est d'elle qu'il s'agit principalement, présente l'extraordinaire mérite d'assurer les fonctions que l'on peut raisonnablement demander à une religion, à savoir faire croire à une justice transcendante qui, à terme, punit le mal et récompense le bien. Parce que sinon, effectivement, enfin, qu'est-ce qui nous obligerait, au fond, à faire le bien et à éviter de faire le mal ? Donc, il y a cet avantage, hein, que nous avons une religion tout à fait raisonnable et qui est en même temps exempte des excès et dérives d'autres religions que sont le fanatisme et la superstition. Donc Voltaire prône ici un déisme dont on retrouvera des éléments jusque dans le culte de la raison et de l'être suprême pendant la Révolution française. Alors, ce fantasme, parce qu'il faut bien l'appeler ainsi, d'une société datée, comme l'imaginait Bell, ou d'une religion rationaliste, comme l'imaginait Voltaire, trouve probablement son origine dans la présentation par les jésuites de l'enseignement de Confucius comme une scientia politico-moralis, où la doctrine religieuse apparaît avant tout comme une scientia et comme une doctrine morale. Et à ce propos, je vous rappellerai donc les propos de Ricci, de Matteo Ricci, qui a mené donc la première vague des missions jésuites en Chine au tout début du XVIIe siècle. Ricci nous dit par exemple: cette religion de Confucius n'admet pas d'idole, mais honore seulement le ciel et la terre, ou ce qu'il appelle le roi du ciel, le souverain du ciel, en chinois, ce qu'il a traduit en chinois Tianzhu, ici. Et à cet être suprême, donc Ricci emploie cette expression, à cet être suprême qu'ils reconnaissent, les lettrés, c'est-à-dire les Zhou, n'érigent aucun temple. Ils n'ont ni prêtre, ni rite solennel, ils ne récitent jamais de prière. Donc, en somme, nous avons ici, encore une fois, le paradoxe d'une image projetée donc par cette Chine mythifiée, d'une image de tolérance religieuse, alors que, dans le même temps, les religions taoïstes et bouddhistes sont reléguées par les jésuites au statut de superstition. Donc ça, c'est quelque chose qui, comme je l'ai signalé précédemment, donc va laisser des traces donc dans l'édification de la modernité chinoise. Enfin, donc en troisième lieu, le sens de la relativité s'introduit également concernant l'universalité de la raison, qui était donc le monopole jusque-là exclusif donc de la tradition à la fois chrétienne et grecque. Je citerai à ce propos le père jésuite, lui aussi, Louis Lecomte. Alors Lecomte, L-E-C-O-M-T-E. Alors vous le trouvez quelquefois orthographié en deux mots, donc le plus loin Comte, qui a vécu entre 1655 et 1728. Donc le père Lecomte, dans ses nouveaux mémoires sur l'état présent de la Chine, qui date de 1696, alors ouvrage condamné dès 1700, en pleine querelle des rites. Donc là, nous voyons déjà que les jésuites sont au cœur de la tourmente, ce qui va finir par conduire, comme vous le savez sans doute, donc à la suppression donc de la compagnie, donc en 1773. Mais donc le père Lecomte concluait son éloge de la pensée de Confucius par cette phrase: la raison est de tous les temps et de tous les lieux. Donc là, nous avons une affirmation donc d'une universalité de la raison qui maintenant inclut la Chine. Or, cette universalité de la raison est le premier des principes sur lesquels le grand philosophe allemand et protestant luthérien, c'est important de le signaler aussi, Leibniz, fondait l'espoir d'une unification religieuse de l'humanité tout entière, dont, à ses yeux, l'Empire chinois était un élément essentiel. Alors, même si on peut considérer que l'intérêt de Leibniz pour la Chine n'était qu'un aspect relativement marginal de son activité intellectuelle, qui fut, comme chacun sait, d'une envergure considérable. À ce propos, je rappelle au passage, et ça je pense que vous le savez tous, que Jacques Bouvresse poursuit en ce moment même et ici même un cours sur nécessité, contingence et liberté chez Leibniz. Donc, même si la Chine ne représente qu'un aspect mineur dans la pensée de Leibniz, il reste que Leibniz est le philosophe européen qui a pris le plus au sérieux la caractérisation philosophique de ce qu'il connaissait de la tradition intellectuelle chinoise. À la différence de nombre de ses collègues philosophes européens, pour qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Chine n'était au fond qu'un prétexte, Leibniz n'a de cesse j'insiste sur ce point, il n'a de cesse qu'on importe des livres chinois en Europe et qu'on ouvre des écoles chinoises où des lettrés viendraient aider à les traduire et à les comprendre. Là, on verra justement que Leibniz s'est très très sérieusement informé du mieux qu'il a pu auprès donc des témoignages jésuites sur ces textes chinois, et on verra que ce qu'il comprend n'est pas si éloigné que ça au fond d'une certaine authenticité, et on sent également une très grande frustration chez lui justement de ne pas avoir accès aux sources premières, et je pense que il aurait sans doute fait l'effort d'apprendre le chinois pour lire ses sources dans le texte. Et dans une lettre, il écrit même qu'il irait jusqu'à la Chine s'il était plus jeune et s'il ne souffrait pas de la goutte. Donc là, son intérêt pour la Chine donc va très loin. Et dans sa correspondance, qui a été en très grande partie conservée, Leibniz fait état d'un idéal réellement visionnaire. Il n'hésite pas à écrire à la princesse électrice Sophie de Hanovre : nous envoyons des missionnaires aux Indes, mais nous aurions besoin que les Chinois nous envoyassent des missionnaires à leur tour pour nous apprendre la religion naturelle que nous avons presque perdu. Et là, petit trait de malice, c'est peut-être ce qui est en train de se passer avec les instituts Confucius. Donc, Leibniz va jusqu'à appeler de ses voeux une mise en commun des savoirs européens et chinois, à savoir donc la réunion de deux cultures aussi anciennes qu'avancées, qui ferait, selon lui, progresser d'un bond l'état global du savoir sur Terre. Donc là, nous avons évidemment quelque chose d'assez idéaliste, mais véritablement de tout à fait visionnaire. Alors, autant dire que Leibniz prend très au sérieux la contribution que les Chinois pourraient apporter à la raison universelle. Dans ce but, et cela procède sans doute de sa formation protestante luthérienne, il préconise la lecture des textes chinois plutôt que celle des commentaires. Alors que dans la Chine de l'époque, on l'a assez souligné, c'est la tradition commentariale qui prime. L'idée de Leibniz, assez conforme à celle des jésuites, est qu'il faut reconvertir la Chine à elle-même en montrant aux Chinois qu'ils ont adhéré contre leurs propres principes à des doctrines grossières, à savoir donc le taoïsme et le bouddhisme, suivies des superstitions, du matérialisme et de l'athéisme, qui ont corrompu leur vraie théologie. Là, je viens de citer donc Leibniz dans le texte. Alors, l'un des textes les plus importants de Leibniz concernant la Chine, du moins d'un point de vue philosophique, est sans doute sa lettre à Monsieur de Raymond, Nicolas Raymond, disciple de Nicolas Malebranche, dont nous parlions tout à l'heure. Alors, cette lettre à Monsieur de Raymond est presque une lettre testament, puisqu'elle a été écrite par Leibniz dans les derniers mois de sa vie, en 1716, donc peu avant sa mort. Et c'est une lettre qui n'a même pas eu le temps de faire parvenir à son destinataire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Leibniz a intitulé lui-même cette lettre, qui est assez longue, Philosophie des Chinois, et il l'annonce comme un discours sur la théologie naturelle des Chinois, tout en soulignant donc la nécessité de quitter la théologie pour la philosophie. Donc pour lui, en fait, quand il parle de théologie naturelle des Chinois, en réalité, il parle de philosophie des Chinois. Et dans cette lettre, il dit ceci: il y a dans la Chine une morale extérieure admirable à certains égards, jointe à une doctrine philosophique ou bien à une théologie naturelle, vénérable par son antiquité, établie et autorisée, c'est-à-dire qui fait autorité, depuis 3000 ans environ, longtemps avant la philosophie des Grecs, laquelle est pourtant la première dont le reste de la terre est des ouvrages, nos livres saints toujours exceptés. Donc là, Leibniz prend quand même quelques précautions vis-à-vis donc de la querelle des rites. Il continue: ce serait une grande imprudence et présomption à nous autres venus après eux et sortis à peine de la barbarie de vouloir condamner une doctrine si ancienne parce qu'elle ne paraît point s'accorder d'abord avec nos notions scolastiques ordinaires. Ainsi, il est raisonnable de voir si on ne pourra pas lui donner un bon sens. Alors, il s'agissait donc dès lors pour Leibniz de trouver des traces de théologie rationnelle ou de métaphysique chrétienne dans les textes confucéens. Alors, le corpus chinois ancien correspond dans le lexique de Leibniz à donc la théologie Theologia Naturalis ou la Philosophia, uniquement fondée sur l'expérience et la raison. Et Leibniz poursuit en disant: la philosophie naturelle, qui gît dans la connaissance de Dieu, de l'âme, des esprits, provient de la lumière naturelle. Alors donc, Leibniz reprend ici l'expression de Ricci, donc « il lume naturale ». Elle ne se répand pas seulement ensuite dans la théologie révélée, mais elle sert de base inébranlable à l'édifice immense de la jurisprudence, au droit de la nature, droit des gens, droit public, à la politique, en un mot, à toutes les lois de la société. Alors, Leibniz, évidemment, souligne à plusieurs reprises l'impropriété de la langue chinoise à exprimer les choses abstraites par manque de termes logiques et métaphysiques. Et alors là, il s'en remet, bien sûr, au témoignage des jésuites. Alors là, nous avons les germes d'une discussion ou d'une controverse qui va durer, à savoir donc la, l'aptitude justement de la langue chinoise à l'abstraction, c'est-à-dire au discours philosophique. Donc les jésuites comment dire, sèment justement les germes de cette idée donc, que la langue chinoise est inapte à l'abstraction. Mais Leibniz, contrairement au jugement négatif des autres philosophes européens, notamment ceux postérieurs, c'est-à-dire ceux du XIXe siècle, pour qui la langue chinoise est constitutivement incapable de philosopher, donc pour Leibniz, au contraire, la faiblesse logique et spéculative de la pensée confucéenne ne semble pas un obstacle à sa qualification philosophique. Dans une lettre au père Desbosses, Desbosses comme Desbosses, Leibniz précise par exemple: comme la philosophie des Chinois n'a jamais été rédigée sous forme de science et que je le soupçonne, les termes philosophiques eux-mêmes font défaut, rien n'interdit de recevoir en meilleure part ce que les anciens chez eux ont enseigné. Alors, dans la, sa préface au Novissima Sinica, c'est-à-dire les dernières nouvelles de la Chine, qui sont alimentées là aussi par les témoignages des jésuites avec lesquels Leibniz était en correspondance assidue. Donc, dans ces Novissima Sinica, parus à Hanover, donc à Hanovre en 1697, Leibniz souligne que l'Europe excelle dans la logique, la métaphysique et la connaissance des choses immatérielles, c'est-à-dire dans l'abstraction, et la Chine, pour sa part, elle excelle dans la philosophie pratique, c'est-à-dire par les règles de la morale et de la politesse accommodées à la vie et à l'usage des hommes. Mais cette constatation est prise dans le sens positif. Donc là, Leibniz, on le voit, rejoint par exemple le jugement de Voltaire, hein, qui disait lui aussi que les Chinois ont probablement une longueur d'avance par rapport aux Européens, justement concernant cette philosophie pratique. Et en Chine, poursuit Leibniz, l'homme n'est pas un loup pour l'homme, et les Chinois, dans leurs relations entre eux, dans leurs relations d'humains à humains, se montrent plus chrétiens que nous. Donc, l'Antiquité ajoutée à l'excellence spirituelle et morale des doctrines chinoises garantit en revanche leur participation à la philosophia perennis, c'est-à-dire à l'œuvre commune de l'humanité qui délivre une vérité une malgré les formes divergentes des théories et des systèmes. Et là, je cite de nouveau la lettre à M. de Raymond, où Leibniz écrit ceci: « La vérité est plus répandue qu'on ne pense, mais elle est très souvent fardée et très souvent enveloppée et même affaiblie, mutilée, corrompue par des additions qui la gâtent et la rendent moins utile. En faisant remarquer ces traces de la vérité dans les anciens, on tirerait l'or de la boue, le diamant de sa mine et la lumière des ténèbres. » Donc, ici, Leibniz affirme donc sa conviction que la Chine peut apporter beaucoup justement à cette donc philosophie universelle. Mais dans ce parallèle que j'ai semblé établir entre Voltaire et Leibniz, il y a évidemment une différence fondamentale. D'abord parce que Voltaire est un philosophe au sens où on l'entendait au XVIIIe siècle et tel que l'a décrit Étiamble, c'est-à-dire donc un philosophe qui n'est qu'un honnête homme militant, alors que Leibniz, lui, est un véritable philosophe tel qu'on l'entend notamment depuis la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle, hein, c'est-à-dire véritablement un philosophe professionnel, en quelque sorte. D'autre part, il y a une différence entre eux concernant leur référence aux sources chinoises, dans la mesure où Voltaire suit essentiellement la stratégie lancée par Ricci, donc de faire de Confucius la figure clé. Et donc Voltaire, quand il met en avant la valeur de la philosophie pratique des Chinois, pense bien sûr à ce qui est dit dans les entretiens de Confucius, notamment justement sur cette règle d'or, cette règle de réciprocité qui fonde donc la morale confucéenne comme elle fonde la morale stoïcienne, par exemple. Alors que chez Leibniz, nous avons un tableau très différent, puisque Leibniz s'intéresse de toute évidence beaucoup plus aux spéculations métaphysiques de sources en réalité néo-confucéennes, qui datent, qui remontent à l'époque des Song, c'est-à-dire donc au XIe, XIIe siècle. Néo-confucianisme des Song qui organise justement sa compréhension des convictions confucéennes à partir d'ouvrages comme le Livre des Mutations, hein, le Yi Jing, sur lequel donc porte mon séminaire de cette année que je mène avec mon collègue de l'Université Paris 7, Stéphane Feuillat. Quand je disais tout à l'heure qu'il y a chez Leibniz une volonté de revenir au texte, hein, par-delà les commentaires, en réalité, donc, Leibniz ne se réfère pas exactement au même texte que d'autres philosophes, et notamment Voltaire. Donc, on connaît l'intérêt développé par Leibniz pour l'arithmétique binaire qu'il croit retrouver dans la combinatoire hexagrammatique donc, du Livre des Mutations. Et ce qui l'intéresse le plus dans les sources chinoises telles qu'il les comprend, c'est ce sont des notions sur lesquelles je reviendrai, donc les notions de Taiji, c'est-à-dire de fait suprême, et de Li, c'est-à-dire donc de principe de cohérence interne des choses, mais que lui comprend en termes de ratio, hein, en termes de raison. Et quand Leibniz se réfère donc au corpus des quatre livres, qui est le corpus le mieux connu à son époque, de par les traductions jésuites, il se réfère principalement au Zhongyong, qui est en réalité un écrit à la fois mystique et d'inspiration mystique et cosmologique. Et on comprend d'ailleurs pourquoi justement l'intérêt de Leibniz s'est concentré sur cet ouvrage-là plutôt que sur les entretiens de Confucius. Bien, donc je crois que je vais devoir m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc nous avons vu aujourd'hui comment justement les philosophes du XVIIIe siècle européen donc se sont appropriés ce qu'ils pouvaient comprendre justement de cette Chine dont ils ont inventé au fond le mythe hein, de la Chine philosophique. Nous serons amenés donc à poursuivre un petit peu ce propos un peu plus avant dans l'histoire du 19e siècle européen, hein, parce que cette question donc de la Chine philosophique me paraît vraiment importante donc au regard de nos investigations. Merci de votre attention et n'oubliez pas donc le questionnaire, s'il vous plaît. Merci.